Alors, je joins Amine Bousbia, qui est gestionnaire responsable des services habitation, et elle nous parle ce matin des projets domiciliaires de la Fondation des aveugles du Québec. Bonjour, Madame Bousbia. Ah,
Monsieur,
monsieur,
bonjour. Bonjour
excusez-moi.
à tous. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour,
Oui, ça
bonjour.
nous fait plaisir. Alors, écoutez, peut-être nous rappeler dans un premier temps quelle est la mission de la Fondation des aveugles du Québec?
Donc, globalement, nous avons, on va dire, trois mandats principaux qui consistent, dans le fond, premièrement, les loisirs. Donc, ça fait 30 ans que la Fondation des aveugles du Québec existe. Et puis, tout ça a commencé avec des activités de loisirs qui étaient organisées pour les personnes non-voyantes, surtout les jeunes. Donc, quand j'entends du loisir, je parle des activités de ski, des activités sportives. Tout ça dans un objectif que les gens se rencontrent, que les jeunes ne soient pas isolés puis bougent un petit peu. Donc, ça, c'est un des premiers mandats, c'est les loisirs. Et avec le temps, on a compris aussi la problématique de la discrimination au logement pour les personnes handicapées visuelles. Et c'est ressenti le besoin de commencer à construire des immeubles, justement pour lutter contre la discrimination qui peut être cachée souvent là, au logement pour les personnes handicapées visuelles. Et puis, dans un objectif aussi encore, que les gens se rencontrent, ne restent pas isolés et puis connaissent leur père. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on est allé, et donc, ça fait une trentaine d'années qu'on construit des immeubles essentiellement dans la région de Montréal.
Ah, donc ça fait 30 ans. C'est quand même, ça fait,
Oui.
c'est pas récent là quand même. Il
Non.
s'agit de logements subventionnés?
Donc, tout dépendamment des immeubles, ça a été plusieurs programmes. Il y en a un, par exemple, situé dans le coin de Tétrouville à Montréal, qui est sur un autre programme, un programme qui n'existe plus du tout. Mais pour la grande majorité de nos programmes actuels, c'est ce qu'on appelle un programme d'accès logis. Donc, on n'est pas exactement dans le réseau des HLM, mais c'est une subvention au loyer qu'on est allé chercher à la ville de Montréal. Ce qui fait que le demandeur bénéficie de la même subvention qu'il bénéficierait dans un HLM, avec quelques différences, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas ses placements ou ses REER et tout ça. Pour une raison très simple, c'est que une personne handicapée visuelle peut avoir travaillé, avoir eu un emploi, puis à la suite d'une perte de vision, bien, avoir quand même un petit peu de patrimoine, puis on voulait pas que la personne soit pénalisée par rapport à ça.
OK. Vous avez combien d'édifices en ce moment? Donc, depuis 30 ans, vous en avez construit
Donc, on
plusieurs?
a, oui, tout à fait. Donc, le premier édifice, ça a été à Tétrouville, comme je le nommais tout à l'heure. Donc, c'est un complexe de trois blocs, on va dire, de six logements. Ça, c'est le premier. Ensuite, on en a un sur la 39e avenue, dans le quartier Rosemont, qui est aussi un de nos plus vieux immeubles. Et ensuite, à la suite, on a construit sur la rue Bennett, dans Hochelaga-Maisonneuve, la rue Pierre-Bernard, et puis le dernier, là, notre gros bébé, sur la rue Sherbrooke, dans l'est de Montréal.
Ah oui, quand même, hein? Ça ratisse une partie de la ville. Qu'est-ce qui distingue les logements de la fondation à prix modique régulier?
Donc, vous voulez dire par rapport à des
Ben,
logements de
est-ce que
prix
dans
modique?
l'aménagement ou bon, vous avez parlé un peu de
Oui.
l'accès par rapport à la subvention, mais est-ce qu'il y a des aménagements différents ou
Donc, essentiellement, les adaptations sont faites dans les aires communes.
Ah,
Donc,
d'accord.
quand la personne handicapée visuelle se trouve, par exemple, dans un de nos édifices, bien, l'ascenseur est parlante, évidemment. On a mis des signes de couleur dans chaque étage pour que la personne semi-voyante puisse se retrouver, parce qu'il y a des gens qui sont en cécité totale, bien sûr, mais il y a aussi des personnes qui ont certains résidus visuels. Donc, des gros caractères, par exemple, pour les portes, du braille. Donc, on a aussi du braille pour les portes pour trouver son appartement. Toutes sortes d'adaptations. Dans un de nos immeubles, on a, par exemple, une main courante pour aider les gens aussi à se retrouver. Et avec le temps, on s'est modernisé et puis on a affiné un petit peu nos méthodes.
Ah oui, en quel sens?
Oui, bien, tout à fait. Donc, par exemple, les mains courantes, on n'en dispose plus actuellement. On n'a pas trouvé ça forcément nécessaire. Et puis, de fil en aiguille, à chaque projet, chaque nouvel édifice, ben, on va en s'améliorant, évidemment.
Oui, ça va de soi. Alors, le dernier bébé doit être vraiment super.
Oui, il est super.
Ah oui.
On est assez fiers.
Vous
On
êtes.
est assez fiers du projet. C'est vraiment un très, très bel édifice sur la rue Sherbrooke, dans le coin, je peux le situer, là, c'est situé entre Desmarteaux et Paul Pot.
Ah oui.
Et c'est vraiment, il est imposant. Et puis, c'est un 39 logements, très, très beau. Et puis, ou si les locataires sont très chanceux de bénéficier d'une qualité de logement, autant au niveau de l'insonorisation et puis au niveau aromatique, là, qui est vraiment très intéressante.
J'imagine qu'il y a des avantages à avoir des voisins qui partagent la même réalité, en tout cas sur le plan visuel, les mêmes défis. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns?
Ben oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on sait que le voisin vit la même chose que nous, ben on est peut-être plus amené à socialiser avec lui. Mm-hmm. Donc, ça fait partie de nos objectifs, que les gens se rencontrent, ne restent pas isolés. Il faut savoir que la grande majorité des personnes handicapées visuelles vivent beaucoup d'exclusion, vivent beaucoup de solitude. Donc, nous, il y a aussi, je tiens à le nommer, on a une certaine vie active dans les immeubles. Donc, on a des salles communautaires, des activités qui sont organisées. Malheureusement, en ce moment, avec la pandémie, c'est plus difficile, mais on a organisé aussi des petites rencontres téléphoniques, des jeux en ligne. Il y a toutes sortes de choses qui sont à voir. Donc, il y a une vie active aussi. On n'est pas obligé d'y participer, il n'y a pas d'obligation, mm-hmm. mais le locataire est amené aussi... peut participer justement à toutes sortes de jeux de société, des sorties aussi qu'on organise. Tout ça à la discrétion du locataire, mais on espère et on invite nos personnes à participer évidemment pour rester seules.
Oui, oui. Mais c'est de très belles initiatives. J'imagine qu'il y a des critères pour avoir droit à un logement dans un immeuble de la Fondation. Pouvez-vous nous les énumérer?
Le premier critère, c'est d'être reconnu comme une personne handicapée visuelle. Donc, mm-hmm. c'est le premier critère. Donc ça, pour le préciser, ça va de la personne qui est en cécité totale à quelqu'un qui est, on va dire, fonctionnellement voyant, mais ne peut pas conduire, utilise des grosses lunettes et tout ça. Mm-hmm. Donc, c'est quand même c'est quand même large comme spectre, si on veut, mais c'est le premier critère. Et puis, éventuellement, le deuxième critère, c'est aussi au niveau des revenus. Donc, pour se qualifier à la subvention de la ville, bien, il faut faire un revenu inférieur à 30 000 $ par année.
Ah, d'accord. J'imagine que ces logements doivent être très courus. Est-ce que vous avez de longues listes d'attente?
Oui, bien, il faut savoir que ce n'est pas essentiellement une liste d'attente. Je tiens à le préciser.
Ah, d'accord.
C'est vraiment une liste de demandeurs. C'est-à-dire que il y a aussi une question de la priorité qui est tenue en compte. Si quelqu'un est dans une situation plus précaire, plus difficile, il se peut qu'il attende moins longtemps que la personne qui est, on va dire, dans une situation plus confortable. Donc, c'est très important, et je tiens à le dire aux futures personnes qui vont s'inscrire sur nos listes, il est important de donner des détails et puis de ne pas se gêner de bien expliquer, d'être juste dans sa description de la situation, parce que ça nous permet vraiment d'évaluer quelle personne est prioritaire dans la demande.
Ah, d'accord. Est-ce que c'est la Fondation qui assure la gestion des immeubles?
Oui, tout à fait. Oui. Donc, on est vraiment les gestionnaires des immeubles et puis, depuis une trentaine d'années, on gère tout ça exactement.
Ah, d'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des défis que nous pose la COVID-19, la pandémie. Est-ce que ça a affecté d'autres activités que vous meniez à la Fondation?
Oui, énormément. Donc, au niveau, je peux parler surtout pour le volet habitation. Comme je vous ai dit, les salles communautaires ont été tous fermées. Mm-hmm. Toutes les activités ont été interrompues. Donc, c'est sûr que pour une personne, par exemple, qui vivait déjà un petit peu de solitude, c'est difficile. La situation actuelle est très difficile pour nos locataires. Donc, c'est sûr qu'il s'installe un climat un petit peu de déprime, etc. Donc, c'est une situation, je pense, difficile pour tout le monde. Et puis, au niveau de nos loisirs plus jeunesse, on a quand même, il aurait fallu que mon collègue soit là pour vous en parler, M. Steve Joseph, mais on a pu mettre en place notre camp de jour d'été qui s'est très, très bien déroulé avec des mesures, donc les moniteurs du camp de jour avaient des visières et c'était un moniteur parce que, vous savez, un jeune a besoin toujours d'assistance, un jeune handicapé visuel. Donc, c'était un jeune, un moniteur. Et puis, on utilisait toutes les mesures de précaution, de distanciation et tout ça pour que le jeune puisse avoir des activités aussi. Donc, on est quand même resté très actif. On a donné le maximum de nous pour être capable de quand même offrir nos différentes activités.
Ah ben c'est intéressant. Est-ce que le camp de jour aura lieu cet été?
On l'espère bien, à moins que les mesures changent.
Oui,
Donc,
bien
voilà.
sûr, on est à la merci des mesures. Qu'en est-il de la collecte de fonds? Est-ce que vous avez pu faire les trouver des nouvelles avenues pour ramasser des fonds?
Bien, évidemment que on a été touché comme tout le monde par ça. Donc, il faut savoir que nous, essentiellement, nos collectes sont des legs testamentaires et des donations grand public. Nous organisons des activités peut-être qui sont un petit peu plus connues aussi, comme le gala Humour aveugle qui se passe au Théâtre Saint-Denis, où est-ce que des comédiens viennent à chaque année se donner en spectacle et tout ça, et nous récoltons les fonds. Donc tout ça a été vraiment touché. Nous avions aussi des bingos, des salles de bingo. Tout ça a été vraiment touché. Donc on vit des pertes actuellement, faut pas se le cacher.
Bon, ben on espère que vous allez pouvoir rattraper ces pertes-là éventuellement. Alors, Monsieur Amine Bousbia, gestionnaire service habitation, merci infiniment de nous avoir parlé de vos projets domiciliaires de la Fondation des aveugles du Québec. Bonne journée.
Merci à vous. Au revoir.